Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué.
Grand-mère Rosot n'est pas là ? Non, dit Bertille, elle est partie très tôt ce matin. À Lompon, chez votre oncle Fred.
Le bon Dieu est absent. On devrait rendre un décret pour forcer Dieu à résidence. Il est à sa maison de campagne et ne s'occupe pas de nous. Aussi, tout va de guingois.
Et il prit l'air d'une jolie brunette, plus gentille que les amours. De belles petites joues roses comme une pêche. Un nez retroussé mignon, mignon. Si la nature pense, les paysages sont les expressions de ses idées.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix, sur Radio U 101.1.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Lyrix. Lyrix, c'est le dernier dimanche de chaque mois à 20h sur Radio U et c'est avec Patricia et Marc. Lors des précédentes émissions, nous avions exploré l'univers de Guy de Maupassant en vous lisant des extraits du recueil des contes de la Bécasse. Aujourd'hui, nous allons partir vers un contexte local avec la lecture de légendes du pays de Brest. Elles sont issues du livre éponyme de l'auteur Michael Madec. Patricia, c'est à toi.
Eh bien, je vais vous lire le premier conte, 10 oursis. Le roi de Brest s'ennuyait dans son château. Aussi s'en alla-t-il voyager en Basse-Bretagne. Il passa dans tous les pays et ne vit rien qui puisse intéresser. Il était toujours maussade et triste. Un jour, enfin, alors qu'il rentrait désolé de n'avoir pas pu se divertir, il arriva à Plougastel et tomba en arrêt devant une petite maison au toit de chaume où il y avait écrit « Ici habitent 10 oursis, qui n'a jamais eu d'ennui ». Étonné, il entra dans le logis et vit un joyeux homme content de lui et de son sort qui lui dit être surnommé 10 oursis. Le roi lui dit « Je suis un puissant souverain et toi un pauvre air. Il n'est pas juste que tu n'aies pas d'ennui alors que moi, tous les jours de ma vie, je suis en butte au tracas et au chagrin. Je suis sûr que tu mens au moins de moitié. Voici ce que tu vas faire. Tu viendras me voir à Brest, mais que ce ne soit ni un dimanche, ni un jour de semaine, que ce ne soit ni par la route, ni par les champs, ni le jour, ni la nuit. » Ni à pied, ni à cheval, ni en voiture. Tu ne seras ni nu, ni habillé. De plus, tu me diras combien je vaux lorsque je suis assis sur le trône, et aussi, où est le centre de la terre, et enfin, ce que je penserai à ce moment-là. Si tu réussis, je te donnerai la moitié de mon royaume, mais si tu perds, je te couperai moi-même la tête. » Et le roi s'en fut sur ces paroles. Pour la première fois de sa vie, 10 oursis se trouvait très ennuyé. Il se creusait la cervelle pour savoir comment répondre au roi et ne pas avoir la tête coupée. Son voisin, le voyant préoccupé, lui demanda ce qui lui arrivait car c'était la première fois qu'il le voyait avoir des soucis. 10 oursis lui raconta la visite du roi et ses exigences. « Ce n'est que cela, dit le voisin. Laisse-moi faire et tu verras. Si tu veux me donner la moitié de royaume qu'on t'a promise, je t'assure que tu n'auras pas à le regretter. » Ils partirent donc tous les deux, le jour de Noël, en bateau. Le voisin s'habilla, tête et tout, d'un filet de pêcheur, et ils prirent avec eux une boule qui servait à jouer aux quilles. Ils débarquèrent tous deux au pied du palais du roi et se présentèrent au souverain. « Alors, dit celui-ci, j'espère que tu t'es conformé à mes ordres d'un bout à l'autre. »« Oui, sire, répondit le voisin. Vous m'avez dit de venir ni un dimanche, ni un jour ordinaire, ni de jour, ni de nuit. Nous sommes à Noël, qui n'est ni un dimanche, ni un jour ordinaire, et c'est une nuit qui est le jour, car le Sauveur, dans cette nuit, a apporté la lumière. La preuve, c'est qu'on dit la messe de minuit comme si c'était le jour. » Je ne suis pas venu par les chemins, ni par les champs, ni à pied, ni à cheval, ni en voiture, car le bateau nous a menés jusqu'à votre château. Je ne suis ni vêtu, ni nu, car le filet de pêcheur que je porte ne me couvre pas entièrement le corps, mais ne me laisse pas non plus tout nu comme un poisson. Très bien, dit le roi. Maintenant, dis-moi où est le centre de la terre. Il est ici, sire, où nous sommes. Voyez-vous-même sur cette boule. Où que je pose le doigt, il est toujours au centre de la boule. Dis-moi combien je vaux lorsque je suis assis sur mon trône. Fée, 29 livres, sire, sauf votre respect. En effet, Jésus-Christ n'a été vendu que 30 livres. Vous conviendrez que vous valez un petit peu moins que lui. D'accord, mais dis-moi ce que je pense en ce moment. Ah, sire, vous pensez que vous parlez à 10 sourcils ? Eh bien non, sire, dit-il en se découvrant la tête. Je suis son voisin, et lui ma compagne. Le roi s'avoua vaincu. Il dut, pour tenir sa parole, donner à 10 sourcils la moitié de son royaume. Mais celui-ci en fit entièrement cadeau à son voisin, car il ne voulait pas que les soucis du gouvernement viennent troubler sa sérénité. Car l'homme le plus heureux du monde est celui qui n'est pas connu. Après ce premier conte, je vais vous lire celui des lutins de la Lande Rouge. À l'époque dont je vais vous parler, là où se trouve l'aéroport de Guipava, il n'y avait que land et terre peu favorables à la culture. C'est là qu'était Alandruz. Le lieu était d'autant plus isolé que les gens du coin ne s'y étaient guère installés. Dès le soir, il était recommandé de n'y point passer. Tout d'abord parce qu'à Alandruz, consistant pour l'essentiel en friches, marécages et garennes, les rares sentiers n'y étaient pas très bien entretenus. À la fin de l'été surtout, ils étaient envahis par des plantes qui prospèrent dans ce genre de lieu, en particulier Spern-Gwen, Spern-Du et Drez. Tous savaient aussi que, dès le coucher du soleil, Alandruz était mal famé. C'était un lieu de rendez-vous pour ces lutins que l'on appelle ici Potretzabat, mot à mot, les gars du sabbat. À ceci près que sabbat en léonard a le sens de vacarme, créature dont il était préférable de ne pas s'approcher. Deux jeunes époux, Seganticolo et sa femme Marjane, habitaient alors au hameau de Kervo, en Guipava. Ils n'étaient pas bien riches. Comme tous ceux qui étaient dans cette situation, il leur fallait parfois faire du chemin pour trouver de quoi survivre. Or, une denrée rare dans la contrée était précisément la paille. Coupée et mise de côté avec soin, elle servait en particulier de litière pour le bétail. Une fois souillée, celle-ci était la base du fumier, l'amendement le plus répandu dans l'Argoade. À défaut de paille en quantité suffisante, on se rabattait sur d'autres plantes. C'était le cas de la bruyère qu'on allait récolter. On sait que la bruyère pousse bien dans des terres où les blés ne viennent qu'à grand-peine. Seganticolo et Marjane étaient allés ce jour-là au hameau d'Anarvez en Plabenègue, où la bruyère abondait alors. La journée de travail terminée, il leur fallait rentrer à pied. La bruyère n'était sans doute pas pour eux, ou bien pouvait attendre un charroi ultérieur. Il ne faisait pas encore nuit. Au lieu de passer par le chemin de Penfrad et de Baralan, plus fréquenté mais plus long pour eux, ils décidèrent de couper au plus court par Alandruz. Malheureusement pour eux, le sentier était encombré de ronces qui les retardaient. La nuit les surprit alors qu'ils se trouvaient encore au milieu d'Alandruz. La situation n'était pas dramatique. La nuit était généreusement éclairée par l'astre que les bretonnants du Léon appellent Janig al-Lur. Cette légende bien connue dit qu'il s'y trouve dans la lune avec son Bélan. Ceci est une punition divine pour avoir, un dimanche, le jour du Seigneur, été chercher de quoi nourrir un cheval. Raison pour laquelle on l'appelle aussi Potre Vélan. Réalisant qu'il risquait de se trouver en mauvaise posture, Seg s'adressa à sa jeune épouse. « Dépêchons-nous, sinon nous allons nous retrouver nez à nez avec les Potretzabat. » Nez à nez n'est peut-être pas le mot juste, vu la taille de ses lutins. Il avait à peine fini sa phrase que les voilà précisément entourés de tout un groupe de ces Potretzabat, grands amateurs de lieux isolés où ils se rassemblaient pour chanter et danser. « Sainte Vierge !» s'exclama Marjane. Nous sommes perdus si nous ne réussissons pas à nous échapper. Tant pis si les épines déchirent nos vêtements. Facile à dire. Il doit être précisé que le pauvre Seigue était boiteux. Étant tout jeune, il était tombé de la jument de ses parents et s'était cassé la jambe. La réparation n'avait pas été bien réalisée. De toute manière, il était trop tard pour fuir. Les potrettes abades les entouraient, formant un cercle de danseurs qui ne leur laissait aucune sortie possible. Seig portait ses instruments de travail, la faucille et le morceau de bois en forme de Y qu'on appelle forig coad. Faute de mieux et craignant d'être agressé, il agitait sa faucille qui, pensait-il, maintiendrait les danseurs à bonne distance. Que faire d'autre ? Ne disait-on pas que ces maudits potrettes abates pouvaient rester danser toute la nuit si l'envie les prenait ? Trouvant la situation amusante comme cela, les potrettes abates se contentaient de danser en chantant à tue-tête. « Die lune, die meuse, die meur » paroles d'accompagnement répétées sans arrêt. Comme rien de plus fâcheux ne se produisait, les deux jeunes gens commencèrent à trouver le temps long. D'autant que, disais-je, la mélodie était courte et répétitive. Cela fit réfléchir ceux qui, à un moment où les potrettes abades reprenaient leur souffle, se mit en tête d'allonger la chanson en rajoutant les mots « Dizio a di guemoner » paroles et rimes qui, vous vous en doutez, n'étaient pas de son invention. Cela eut l'heur d'être apprécié par les potrettes abades. Ces créatures, lorsqu'elles étaient d'humeur folâtre, ne faisaient de mal à personne, sauf pour embarquer les retardataires et autres noceurs dans leur farandole interminable. Au bout d'un moment, la chanson embellie de la sorte étant bien apprise, on s'arrêta et le chef des potrettes abades s'adressa à leur invité malgré eux. « Nous allons te remercier pour le cadeau que tu viens de nous faire, Seig. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour te revaloir ça ? La beauté ou les richesses ?»« Ma foi, répondit Seig, si cela vous est possible, j'aimerais bien que ma jambe retrouve son état d'avant mon accident. » Voilà les potrettes abades, malgré leur petite taille, qui s'emparent de Seig. Telle une balle, ils se le lancent les uns aux autres sous les yeux effarés de Marjan. Inutile de vous dire que Seig n'était pas très rassuré d'être ainsi ballotté et de passer entre toutes les mains. Pourtant, miracle ! La séance terminée, il put reprendre ses esprits et constater avec une joie sans nom que son infirmité lui avait été ôtée. Il se tenait droit comme la bannière d'un trente varia Aaron, le jour du pardon, quand tous les costauds de Guipava mettaient un point d'honneur à la tenir ainsi. Qui fut bien étonné, parmi ces gars qu'il avait connus infirmes, tout juste bons à être pris en pitié, et qui constatèrent que Seig Anticolo était devenu l'un des leurs à part entière. Un peu plus tard, c'est seul que Seig, d'un bon pas désormais, alla à nouveau à Anarvez, coupé de la bruyère. Cette fois-ci, il n'hésita pas à prendre part à l'Andruse, n'ayant plus de crainte d'une rencontre avec le petit peuple des potrettes abates. C'est ce qui se produisit. On l'entoura avec des cris de joie. Les danseurs lui montrèrent qu'ils avaient retenu la leçon en chantant à tue-tête « Die lune, die meurs, a die meur, die ziou, a die gwener ». C'est alors que Seig qui, on peut le supposer, avait préparé son coup, reprit à lui seul la chanson et cette fois la rallongea d'autant. « Die lune, die meurs, a die meur, die ziou, a die gwener, die zedorn et erreur, a die zoul et honneur ». Tout fier de lui, Seig ne s'attendait pourtant pas à ce qui se passa. À peine avait-il fini son couplet que, entre les danseurs, une foule d'autres potrettes abates accoururent en poussant des cris d'allégresse. C'était à qui pourrait lui embrasser les pieds avant les autres, le tout en chantant. « Saïg un deux un délivret, eus or pinigen galed. » Mais que se passe-t-il ? Demanda Seig. « Ça ne va pas ?»« Oh que si, Seig !» répondit le chef du petit peuple. « Dieu nous avait condamnés à venir danser ici tous les soirs jusqu'à ce qu'un bon chrétien daigne finir notre chanson. »« Tu as réussi !» Nous allons pouvoir rentrer dans notre royaume, qui se trouve sous terre, plus bas que la mer. Et pour te remercier, voici en cadeau ces 3 sacs. » À peine Seig avait-il pris ce qu'on lui offrait qu'il se retrouva seul, dans Alonruz, bien étonné, comme vous pouvez vous en douter. Il se disait que ces 3 sacs, plutôt lourds, contenaient quelques trésors qui amélioreraient la situation de sa maisonnée. De retour chez lui, il les posa, toujours fermés sur la table devant Marjane stupéfaite. « J'ai l'impression qu'il y a là de quoi acheter 3 paroisses avec leur recteur. » Il ouvrit alors le 1er sac. Las, il ne contenait que des feuilles sèches. Le voilà bien attrapé d'avoir vendu, comme on le dit, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Plus très sûr de lui, il déchira le 2e sac, qui était plus lourd. Effectivement, c'est de sable qu'il était rempli. Enfin, très déçu, il ne tarda pas à ouvrir le 3e. Rien que du crin et des cailloux. Quel fameux trésor ! Sainte Vierge ! S'exclama-t-il. Les potrets de Zabat se sont bien payés ma tête. Et tu as accepté des cadeaux de cette engeance maudite ? Je croyais qu'il contenait de l'or. Maintenant, le mieux que j'ai à faire, c'est d'arroser tout ceci d'eau bénite pour qu'il n'arrive pas malheur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Seig prit le récipient d'eau bénite et le rameau de buis béni placé près du crucifix. Ayant trempé le rameau dans l'eau, il se mit à bénir les sacs et leur contenu. Et alors, le crin se transforma en perles, le sable en pierres précieuses et les feuilles en pièces d'or. Ça alors ! Seig Anticolo et Marjane, rendus muets par l'émotion, avaient l'impression que le paradis venait de descendre sur terre dans leur modeste logis. Leur première pensée fut que le trésor des potrets de Zabad ferait le bonheur de certains. Seig acheta du blé et en distribua, pour une valeur de 100 francs, mais donnée bien sûr, ainsi que 10 mesures de tissu blanc à chaque indigent de la paroisse. Il paya de quoi faire dire 50 messes pour le repos des âmes de ses défunts. Il acheta une belle ferme près de Saint-Renan, ainsi qu'une grande maison à Lesnevin. Après quoi, lui et Marjane eurent 12 enfants dont aucun n'était boiteux. Croyez-moi, ces enfants entendirent souvent parler des potrets Zabat d'Alanruz, et pas pour en dire du mal. Vous l'aviez deviné.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix, sur Radio U 101.1.
San Michael a tro a tro arbrumen a stanke din prenestra bit a tro a tro arbrumen a stanke din Abelibet war gern an Düchen, da tru se bet war tro war tro. Abelibet war gern an Düchen, da tru se bet war tro war tro. Ach, baren son. Er rümen, aber am Rümer leser glau. Ach, balanzon, er rümen, aber am Rümer leser glau. Pre
adora chapeli, me San Miguel ma che chale.
Après ces deux premiers contes, je vais maintenant vous lire trois différentes versions de la légende entre Léon et Cornouailles. Ces légendes mettent en scène le diable et expliquent pourquoi se trouvent beaucoup de rochers sur la presqu'île de Plougastel. Entre Léon et Cornouailles, première version. Jadis, ce pays était à ce point renommé pour sa bienfaisance qu'un jour Satan, fatigué d'entendre louer la charité des habitants de la Bretagne, se décida à venir s'en assurer par lui-même, car, par suite d'une longue expérience, il se refusait à croire qu'il existât autant de bonté parmi les hommes. Arrivé ici, sur la rive cornouaillaise, il se vêtit d'effets misérables et, un sac vide sur l'épaule, un bâton noueux à la main, il alla frapper à la porte d'un vieux pêcheur. La porte s'ouvrit immédiatement, mais, à peine ouverte, le pêcheur reconnut Satan, malgré sa voix dolente et ses supplications plaintives. Les méchants ont toujours en eux quelque chose qui les trahit. « Entrez dans la maison, cher pauvre !» lui dit le pêcheur d'un air engageant. Mais à peine le diable eut-il mis les pieds au-delà du seuil que le vieux pêcheur, repoussant brusquement la porte, renversa le mendiant sur les cailloux de la grève. « Singulière charité !» dit Satan en se frottant ses membres endoloris. Il se releva en geignant et, un peu plus loin, alla frapper à une autre porte. Les gens de la maison, avant de se rendre à leur travail, récitaient le chapelet. Entre deux prières, ils entendirent une voix stridente qui disait d'un ton lamentable « Ouvrez-moi, bonnes gens, j'ai faim et j'ai froid !»« Brianna, va ouvrir aux pauvres !» dit le fermier. « Je n'ose pas, j'ai trop peur. Jamais je n'ai entendu une voix aussi effrayante !» N'importe, il ne faut jamais laisser à la porte un pauvre qui demande la charité. » Malgré sa frayeur, Bigana alla ouvrir la porte. Aussitôt qu'on aperçut les pieds fourchus du prétendu pauvre, son nez d'oiseau de proie, ses dents aiguës et par-dessus tout ses yeux rouges feu, on reconnut immédiatement Satan. Chacun s'empressa de faire le signe de la croix et, se sentant protégé par le divin signe de la rédemption, se mit à se moquer du diable. En un clin d'œil, on le mit à la porte en l'arrosant avec de l'eau bénite qui se trouvait dans le bénitier où se conserve le buis des rameaux. « Je me suis fait prendre encore une fois, » dit le diable, plein de rage, mais se hâtant de fuir en hurlant de douleur. Malgré cette nouvelle déconvenue, voyant une maison nette au bord de la mer, il s'y rendit encore. Il n'y avait qu'un enfant dans la maison. « Mon enfant, » dit le faux pauvre, « j'ai grand soif. N'aurais-tu pas quelque chose à me donner à boire ?»« Si, vraiment, » répondit l'enfant, « voici du lait ribot. » Ce lait était si aigre et si mauvais que même les pourceaux n'auraient pu le boire. Aussi, à peine le diable l'eut-il goûté, qu'il fit une grimace épouvantable, jeta le lait par la place et, sortant de la maison inhospitalière, il se précipita dans la mer pour gagner la rive léonaise. Arrivé sur l'autre bord, Satan se secoua pour se sécher et alla frapper à la première maison qu'il rencontra. C'était celle d'une pauvre veuve. En ce moment, éclatait un orage épouvantable. La pluie tombait à torrents et le tonnerre grondait avec fracas. « J'ai grand faim !» gémit le pauvre sur le seuil de la porte. D'un seul regard, la veuve reconnut l'ennemi du genre humain. Cependant, elle sentit son cœur s'attendrir et elle se dit « Lorsque les méchants sont réduits à se plaindre, ils doivent passer avant tous les autres. »« Entrez à la maison, lui dit-elle, voici de quoi apaiser votre faim et du feu pour réchauffer vos membres. » En disant ces paroles, la veuve plaça devant le pauvre un grand chaudron plein d'une bouillie appétissante. Manœuvrant avec une merveilleuse dextérité sa cuillère de bois, le diable fit, en un instant, disparaître la bouillie qui était accompagnée de deux baudessates de lait doux. « La bouillie est délicieuse, ma brave femme, » dit-il lorsqu'il eut achevé. « Mais n'auriez-vous pas autre chose à me donner? J'ai encore faim. »« Si fait, » répondit la veuve, « dans un instant, les poulous seront cuits. » Aussitôt qu'ils le furent, elle en plaça une bassine pleine jusqu'au bord devant lui et y joignit une énorme pile de crêpes. Un instant après, il ne restait plus rien à manger. Le diable avait tout dévoré. Se levant alors de table, il dit à la veuve « Votre charité m'a causé un grand bien, ma brave femme. Ne pourrais-je, à mon tour, rien faire pour vous ? Je suis fort et adroit, et n'importe quel travail que vous me diriez d'accomplir, je le ferai immédiatement. » En ce temps-là, les rochers grands et petits que vous voyez maintenant en Plougastel étaient du côté de Léon. « J'ai ce qu'il me faut pour élever ma famille, » répondit la veuve. « Mes terres sont bonnes et suffisent à cela. La peine de mes voisins est la seule que je ressente. Voyez comme ces énormes pierres sont gênantes. Si elles n'étaient pas là, je n'aurais aucun souhait à former. « Quoi ? Ces pierres ? Il ne faut que cela pour vous faire plaisir ?» Mettant rapidement habit bas, Paul Cornu prit les rochers les uns après les autres, comme s'ils eussent été de simples palets, et les jeta de l'autre côté de la mer, où depuis ils sont restés. Entre Léon et Cornouailles, version 2. Un jour que Maître Guillaume, c'est le nom que les paysans du Léon donnent familièrement au diable, voyageait sur la rive gauche des Lornes, attardé par ses nombreuses affaires et saisi par la faim, il souleva le loquet d'une porte à Plougastel et demanda comme un simple mendiant du pain et de l'eau à la maîtresse du logis. La maîtresse le regarda, ferma la porte et ne répondit rien. Désappointé, il recommença à la chaumière suivante et fut accueilli de la même sorte. La route était longue pour arriver à Brest. Là, il savait, le malin, qu'on le recevait toujours à bras ouverts, mais la faim le tenaillait. Que faire ? Il enjamba la rivière, au lieu dit Rocandioul, la roche du diable, où se voit, empreinte dans la pierre, la marque de sa redoutable griffe, puis touche à terre, à Guipava. La première porte, à laquelle il frappa, s'ouvrit toute grande devant lui, et ce n'est pas du pain, ce n'est pas de l'eau qu'on lui servit, mais bien une pleine bassine de bouillie, et du cidre et du vin, tant qu'il en voulut. Quand il eut bu, qu'il eût mangé en se reposant au coin de l'âtre, il se mit à deviser avec son hôtesse. Quels étaient ses désirs? Ils pouvaient tous les contenter. Hélas, elle n'en avait pas de bien ambitieux. Quelques pierres gênaient ses légumes dans le verger, quelques cailloux rendaient moins fructueuse sa récolte dans le champ. Elle ne demandait à l'homme noir que de les enlever. « Certes, je le ferai de bien bon cœur. » Et il se mit à la besogne. Les premières roches tombèrent dans la rivière, mais petit à petit, tout en joquetant avec les cailloux, comme il regardait au-delà de l'eau, il se ressouvint de sa mésaventure au village de Plougastel. Alors les pierres, au lieu de tomber dans la vallée, prirent le chemin de la côte voisine, mais en passant par la main du diable, elles grossissaient, grossissaient toujours. Plus il en jetait, plus il en trouvait, si bien que son ouvrage dura toute la nuit. Ce qui vous explique pourquoi la rive droite de la rivière de Landerneau est si fertile et la rive gauche, au contraire, si abrupte et si désolée. Entre Léon et Cornouailles, troisième version. Les rochers de Plougastel ont leur légende. Ceci se passait à l'époque très ancienne où les gens de Plougastel vivaient tranquilles, sans aucun souci d'argent. Il y avait déjà longtemps que Paul Gorniec, le diable, n'était pas venu faire un tour en Bretagne et il guignait ce petit coin qui lui semblait bien agréable pour un terrain de chasse. Mais Jésus veillait sur Plougastel et refusait à Satan le plaisir de venir éprouver les gens de ce pays. Et pourtant, de guerre lasse, car le démon revenait constamment à la charge, Jésus décida de lui donner la permission de venir à Plougastel, mais seulement pendant la semaine de Pâques. Le diable se dit que ce n'était pas une petite affaire et il se prépara soigneusement. D'abord, il prit avec lui tous les déguisements les plus persuasifs, se mit en grands frais et acheta même, lui si avare, des souliers neufs. Il arriva donc en grand équipage et parcourant la presqu'île, se faisait passer partout pour un grand seigneur. Il promettait aux vieilles femmes des richesses, aux jeunes, des brocarts et des bijoux. Mais à peine le voyait-on arriver que malgré ses nombreux déguisements et ses belles paroles, on le reconnaissait, on lui riait au nez et tout le monde le harcelait jusqu'à ce qu'il s'enfuit. À coups de fourche, à grand renfort d'eau bénite, on le chassait et on le pourchassait. Les jours de la semaine passaient rapidement et le pauvre Paul était toujours bredouille. Il se trouva un soir près d'un manoir, résidence du sire de Kereraut. Il se dit que, puisque les pauvres gens ne voulaient pas le recevoir, peut-être aurait-il plus de chance auprès d'un représentant de la noblesse. Il se présenta donc au manoir et trouva le sire de Kereraut qui, de retour de la chasse, se reposait sur la terrasse dominant la rivière Elorne. Le diable avait pris la précaution de s'habiller comme un gentilhomme pour se présenter au maître du manoir. « Bien le bonjour, monsieur de Kereraut, j'ai l'honneur de... » Le sire de Kereraut, dont la patience n'était pas la grande qualité, l'interrompit. « Quel est ce malotru qui se présente devant moi avec son chapeau sur la tête ?» Le diable ne broncha pas. En effet, il lui était difficile d'ôter son chapeau, car du coup, on verrait ses cornes. « Veuillez, monsieur l'intrus, vous découvrir avant de me saluer, » tonitrua le sire de Kereraut qui s'était levé de son siège et s'approchait avec un air menaçant. Le diable ne bougeait toujours pas. Le diable ne bougeait toujours pas. Le seigneur fit sauter le chapeau d'un geste et les cornes apparurent. « Comment ? Le diable chez moi ? Je vais te faire passer l'envie, satané Paul, de venir ennuyer les chrétiens. » D'un coup de pied, d'une force formidable, il projeta le diable de l'autre côté de la rivière. Celui-ci se retrouva à Kerhuon, meurtri et se frottant le postérieur. Ruminant sa vengeance, il se dirigea vers une maisonnette près de la grève. Une pauvre veuve y vivait misérablement. Lorsque le diable entra chez elle, elle était en train de manger un peu de bouillie d'avoine et des crêpes de sarrasin. « L'aumône, s'il vous plaît, ma bonne dame !»« Ne joue donc pas au malin, lui répondit la veuve. Tu es le diable, je t'ai reconnu. Mais si tu as faim, tout diable que tu es, je ne serai pas plus pauvre pour partager avec toi mes crêpes et ma bouillie. » Le diable mangea de bon appétit. Quand il se fut rassasié, il lui dit « Tu peux me demander ce que tu veux, et je le ferai. » « Tu as été bonne envers moi, et je veux te remercier. »« Oh !» lui répondit la veuve, « je n'ai pas de grands besoins. Si je n'avais pas ces rochers dans mon champ, je serais moins fatigué à la fin de la journée, mais ce n'est pas grand-chose. Je vais t'en débarrasser sur le champ. » Paul Gorniec attrapa les rochers un à un et les lança sur la rive opposée, à Plougastel, où ils se trouvent toujours. Mais Jésus veillait sur ses fidèles chrétiens de Plougastel. Il leur envoya son ami Saint Jean pour les protéger et Saint Jacques qui remplit les abords de la presqu'île des savoureuses coquilles qui portent son nom et Saint Pierre pour leur apprendre à les pêcher. Ce dernier est d'ailleurs le patron de l'église paroissiale. Enfin, il demanda à Saint Thomas de changer les petits cailloux jetés par le démon en de jolies fraises rouges qui font la gloire de Plougastel. On attribue une légende similaire à Gargantua qui, n'ayant pas été rassasié à Plougastel, mais repu à Carion, lança sur la presqu'île cornoyaise les rochers qui encombraient l'autre rive. On raconte également que la Vierge, traversant la région sous les traits d'une vieille femme couverte de haillons, fut chassée par les Kérors, mais les Plougastels l'accueillirent charitablement et la comblèrent d'attention. En récompense, la presqu'île devint fertile.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics sur Radio U 101.1.
Voilà, Lyrics c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain, comme d'habitude, le dernier dimanche de chaque mois à 20h sur Radio U. D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. Sachez que vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur la page Lyrics de Mixcloud.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics sur Radio U 101.1.